Écoutez.
En 1802, à Paris, naissait Victor Hugo. Alors Victor Hugo, on le connaît tous. Et Victor Hugo, qui l'a ensuite fait savoir au monde entier, avec la discrétion et la modestie qu'il caractérisait, ce siècle avait 2 ans. Rome remplaçait Sparte, déjà Napoléon perçait sous Bonaparte. C'est une citation. Beaucoup plus modestement, mais 2 mois, jour pour jour après Victor Hugo, cette même année 1802, naissait à Lyon Louis Niedermeyer, que l'on ne connaît plus vraiment aujourd'hui, ou peut-être pas du tout, d'ailleurs moi je découvre son nom, mais qui fit à l'époque une carrière de compositeur assez prodigieuse, hein, Marie Favre.
Ben oui.
Bonjour.
Bonjour. Ouais. Il est né à Nyon, vraiment en Suisse, en Suisse romande. Et il a fait une très très belle carrière. Je crois même que si je ne m'abuse, son buste a été pendant longtemps à figurer dans la galerie des bustes de l'Opéra de Paris.
Ah,
pendant
oui.
plusieurs années. Ouais, ouais.
D'accord,
il a vraiment eu en son temps un retentissement assez important. Je propose qu'on commence par, un peu de poésie. Victor Hugo, effectivement, est un contemporain de Niedermeyer, ou Niedermeyer, un contemporain de Victor Hugo.
Oui.
Il a été une source d'inspiration importante. Tante aussi pour ce compositeur qui a écrit énormément de mélodies en français. D'ailleurs, avant les grands compositeurs de mélodies qu'on connaît, hein, Fauré, Debussy, Poulenc, vraiment la génération avant, lui, il a écrit beaucoup de mélodies, dont plusieurs sur des poèmes de Victor Hugo, qui était une grande source d'inspiration pour tout le siècle.
Bien sûr.
Et alors, pourquoi ne pas commencer par un peu de poésie? Je vous propose de vous lire quelques vers, si vous êtes d'accord.
Volontiers.
Alors, écoutez bien.
Victor Hugo, donc.
Victor Hugo, donc. Ni peintre, ni sculpteur, il fut musicien. Il vint Nouvel Orphée, après l'Orphée ancien, et comme l'océan n'apporte que sa vague, il n'apporta que l'art du mystère et du vague. La lyre qui tout bas pleure en chantant bien haut, qui verse à tous un son où chacun trouve un mot, le luth où se traduit plus ineffable encore, le rêve inexprimé qui s'efface à l'aurore.
C'est assez emphatique.
C'est Victor Hugo.
C'est Victor Hugo, hein. C'est
Victor Hugo. Je vous laisse libre de votre appréciation.
Oui, oui, tout à fait, oui.
À votre avis, de qui parle Victor Hugo dans ce poème?
Alors, Nouvel Orphée. Bon, il doit parler d'un. Ben oui, il parle d'un musicien puisqu'il dit ni peintre ni sculpteur. Il fut musicien. Mais alors de qui? Alors, est-ce qu'il parle d'un contemporain? Est-ce qu'il parle de quelqu'un d'autre? C'est difficile. Ou est-ce qu'il parle de notre compositeur du jour?
Eh bien, je vous lis 2 autres vers qui vont répondre à cette question. Puissant Palestrina, vieux maître, vieux génie, je vous salue ici, père de l'harmonie.
Ah, un hommage à Palestrina. C'est vrai,
ouais.
C'est tout à fait inattendu. Hein.
C'est inattendu. Enfin,
Il
est du 19e.
Ouais.
Et en fait, je vous mentionne ce poème parce que Victor Hugo, dans ce poème, fait un grand hommage à Palestrina.
D'accord.
C'est donc pour les auditeurs qui voudraient lire tout le poème, un extrait du recueil Les rayons et les ombres qui a été publié en 1840. Le poème s'appelle « Que la musique date du 16e siècle ». Et cette idée que la grande musique date du XVIe siècle, Niedermeyer la partageait. Ce compositeur né à Nyon, on voit que c'est quelque chose dans l'air du temps. Et on va regarder
Un retour aux sources à l'époque.
Mm-hmm. Mais on va le voir à la sauce XIXe siècle. Parce
D'accord.
que notre idée à nous de Palestrina n'est pas du tout celle que s'en font Victor Hugo et Niedermeyer.
Mais d'ailleurs, on peut se demander comment cette musique était chantée à l'époque. Peut-être d'une manière assez différente d'aujourd'hui, de manière moins épurée, plus exaltée, comme un poème de Hugo. Je sais pas, je me pose la question. Mais pour eux, en tout cas, c'était une sorte de modèle de musique pure, j'imagine, de musique des origines.
C'est devenu vraiment un très très grand modèle pour eux, oui.
D'accord, ok. Et comment ça se fait que donc notre compositeur Louis Niedermeyer, lui, s'intéresse tout d'un coup à Palestrina?
Eh bien, c'est qu'il a été un compositeur européen. Il est né en Suisse, mais il a fait une carrière très impressionnante pour un Suisse de l'époque. Il a étudié dans différentes régions d'Europe.
Oui.
Et d'ailleurs, pour mieux comprendre ce compositeur, je me suis rendue à Nyon, où il y a une fondation qui maintenant veille à valoriser ce patrimoine musical. Et j'ai interrogé Aurore Cala-Fontana, qui est musicologue au sein de cette institution, et qui nous expliquait justement ce parcours, cette formation très étonnante qu'a eu Louis Niedermeyer en son temps.
Très tôt, donc enfant, il a commencé la musique à Nyon. Son père était lui-même musicien, il tenait les orgues à la fin du XVIIIe siècle. Et puis, comme justement son père a remarqué que Louis, donc son fils, avait des prédispositions pour la musique, il l'a envoyé à l'âge de 16 ans par faire sa formation d'abord à Vienne, auprès de Moscheles, qui était un immense pianiste à l'époque. Et puis, il est allé se perfectionner aussi dans le domaine de la composition auprès de Förster, qui était un théoricien, compositeur et pédagogue, qui avait entre autres côtoyé Beethoven. Donc,
Pardon, et donc ça laisse entendre qu'il parlait français, allemand, c'était quelqu'un d'assez cultivé en fait, d'assez instruit.
Alors certainement, car son père était de nationalité, enfin nationalité entre guillemets allemande, oui. Et sa mère était justement venait de Nyon, donc il était probablement bilingue dès le départ.
Et après Vienne, qu'est-ce qu'il a fait ?
Donc il est parti ensuite à Rome, et là c'est plutôt la musique religieuse qu'il a étudiée auprès de Valentino Fioravanti, qui était maître de chapelle là-bas. C'est probablement là qu'il a découvert aussi justement tout ce qui était la musique de la Renaissance. Et en fait, durant toute la suite de sa carrière, Niedermayer vouera une vraie admiration pour la musique justement de Palestrina et des compositeurs de cette époque-là. Donc c'est probablement là-bas qu'il a découvert cette musique. Et puis, toujours du côté de l'Italie, il est parti ensuite à Naples. Et là, c'est plutôt une formation dans le domaine de l'opéra qu'il a effectué auprès de Zingarelli. Et puis en fait, c'est aussi là-bas qu'il a rencontré Rossini, qui est d'abord son maître et devenu ensuite un ami.
C'est beau ça, hein, Marie Favre.
C'est magnifique.
Ouais, c'est vraiment magnifique. Alors, c'est quoi d'ailleurs ?
C'est
la messe solennelle.
C'est la petite messe solennelle de Rossini, voilà, c'est le début, le Kyrie.
Le Kyrie de la petite messe solennelle de Rossini. Ça faisait depuis longtemps que je n'avais pas écouté ça. C'est très beau. Dans la version originale ici, en fait, ou la version,
ouais, la version
avec accompagnement
piano, harmonium et chœur, oui.
D'accord, parfaitement. Alors, on était avec Hugo tout à l'heure, et là, donc, on est avec Rossini qui fut le maître, le mentor de notre compositeur du jour, Louis Niedermayer. On rappelle que Niedermayer est né en 1802 à Nyon. Et vous étiez justement en discussion avec la musicologue de la Fondation Niedermayer, qui, elle, existe depuis 10 ans, je crois, hein, cette fondation.
Oui, exactement. Elle fête ses 10 ans cette année.
Voilà. Donc, vous étiez en discussion avec Aurore Cala Fontana. Donc, revenons à Rossini. Et à son influence et à son rapport avec Louis Niedermayer.
Oui, puisque Aurore Cala Fontana vient de nous tracer un petit peu l'itinéraire européen, on pourrait dire, de Niedermayer à Vienne, à Rome, à Naples.
Voilà.
Et l'Italie a été très importante pour lui, à Rome en particulier.
À divers égards, oui. Tout à fait.
Aurore Cala Fontana mentionnait justement la découverte de la musique de la Renaissance et de Palestrina en particulier, que Niedermayer a fait à Rome.
Oui, ça a été un coup de foudre.
Ouais, vraisemblablement pour lui, ça a été quelque chose de très important, parce qu'on voit ensuite que dans toute sa carrière, c'est quelque chose qui l'a profondément nourri.
D'accord.
Après l'Italie, il ira, peut-être je vais un peu en avant, il ira à Paris.
Oui.
Mais là, à Paris, en 1853, je crois, il fondera une école de musique sacrée, dans laquelle il enseignera justement cette musique, entre autres de la Renaissance.
Oui.
Et il fondera aussi un périodique qui a eu pas mal d'abonnés en son temps, qui s'appelait La Maîtrise, dans laquelle chaque mois, il publiait un motet du XVIe siècle, dont beaucoup de Palestrina. Et c'est très intéressant pour les sources, parce que vous parliez avant de l'interprétation de cette musique renaissante au XIXe, bah là on voit les partitions telles que publiées par ses compositeurs, dont Niedermayer. Et on voit que c'est très intéressant, il publie avec des nuances, avec des grandes barres de liaison, avec une sorte d'indication que nous
des phrasés typiques du XIXe siècle.
Absolument, que nous aujourd'hui dans les éditions critiques on ferait disparaître, parce que c'est pas du tout ce qu'on faisait à l'époque, mais eux réinterprétaient ça. Il y a ce double mouvement de le réinterpréter à leur manière et en même temps de le redécouvrir.
C'est quand même très intéressant de se dire qu'en même temps, en Allemagne, en tout cas au cours du 19e siècle, et ça c'est un petit aparté que moi je fais, Johannes Brahms, lui, s'intéresse beaucoup à la musique de ses prédécesseurs. C'est aussi quelqu'un qui a beaucoup fouillé les bibliothèques et qui s'intéressait à la musique de Heinrich Schütz et à des tas de compositeurs de la Renaissance. Donc on voit qu'en Allemagne, il y a des compositeurs qui vont chercher leurs racines dans cette musique et que ben, pour un compositeur comme Niedermayer, qui était un Européen, vous le disiez, basé à Nyon, mais un Européen, qui était donc là, à Rome et à Naples, j'imagine dans les années 1820, peut-être quelque chose comme ça, il y a cette redécouverte de la musique de Palestrina et de la musique de la Renaissance.
Mais oui, pour rebondir sur ce que vous dites, je crois que c'est un mouvement assez général. C'est les mêmes années où, dans le domaine littéraire, Gérard de Nerval publie un essai sur les poètes du XVIe siècle, par exemple.
Oui.
Il donne une anthologie avec des extraits de Ronsard, des choses qui n'avaient plus forcément été mises en valeur depuis quelques temps. Donc il y a ce retour en arrière qui est assez surprenant et qui est en parallèle à toutes sortes de mouvements d'innovation qu'on connaît.
Alors, on va revenir à cette petite messe solennelle de Rossini. Et je crois que vous aimeriez la comparer avec une œuvre de Louis Niedermayer qui, semble-t-il, a été influencée par Rossini et par cette œuvre en particulier.
Oui, exactement. On parle depuis un grand moment de Palestrina. C'est vrai que toute la musique liturgique, et une messe, c'est par essence une œuvre qui a pour fonction de servir la liturgie.
Oui.
Toute cette musique liturgique, à l'époque, elle est toujours basée sur Palestrina. Il y a une sorte de fixité liturgique dans l'Église catholique qui fait que au Concile de Trente, Palestrina a fixé les règles de l'écriture de musique religieuse et on limite, on écrit à la Palestrina beaucoup.
Oui.
Et tous ces compositeurs qui le redécouvrent et qui le considèrent comme le père de la musique vont continuer à l'imiter. Et le Christé, que les auditeurs connaissent peut-être, donc la suite de ce qu'on a entendu, de la petite messe solennelle de Rossini, est justement composée dans ce style qui est une imitation de Palestrina, cette musique à la Palestrina. Mais c'est en réalité un calque de quelque chose d'autre que je vous propose qu'on écoute d'abord.
Thank you.
Les voix de l'ensemble vocal de la côte dans cette œuvre intitulée « Grande messe solennelle », c'est la partie intitulée « Et incarnatus est » et c'est tiré d'une œuvre de Louis Niedermeyer, c'est ce compositeur qui nous occupe aujourd'hui dans Versus Écouté, compositeur, je le rappelle, d'origine suisse, né à Nyon en 1802 et qui a fait carrière, notamment à Paris, Marie Favre. Donc, vous parliez d'un calque, c'est-à-dire qu'ici, maintenant on a le modèle aussi pour ce calque, donc quel est le rapport entre cette œuvre-ci et la petite messe solennelle de Rossini qu'on a entendue juste auparavant?
En fait, le meilleur moyen de se rendre compte, c'est pas par des mots, c'est par la musique, vous allez vous rendre compte tout seul de l'influence de l'une sur l'autre.
Voix a cappella ici, c'était le Christé de la petite messe solennelle de Rossini, dans ce style à la palestrina, qui est le style qui prédominait à l'époque. Mais ce qu'on se rend compte, effectivement, c'est que ce qu'on vient d'entendre est très similaire à l'extrait musical juste auparavant, qui lui était signé Louis Niedermeyer. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire, Marie-Fave?
Alors déjà, c'est même plus que très similaire. C'est note pour note exactement la même chose.
Peut-être dans une tonalité différente, mais il m'a semblé. Ou peut-être pas.
Peut-être pas, il me semblait que non. Mais enfin, ce serait la seule différence.
D'accord.
Si cette différence est. C'est vraiment note pour note la même chose avec le seul texte diffère. C'est Et incarnatus est dans la version de Niedermeyer et Christé dans celle de Rossini. Ce qu'on peut en déduire, c'est que Rossini et Niedermeyer sont restés en contact.
Oui.
Donc on a dit tout à l'heure que Niedermeyer a rencontré Rossini à Naples lors de ses études. Ensuite,
il était tout jeune, je crois.
Il était très jeune, il avait moins de 20 ans.
Ouais. Voilà, 18 ans, voilà.
Absolument. Mmh. Ensuite, il est rentré en Suisse où il a travaillé quelques temps à Nyon. Puis ensuite, il a voyagé entre Nyon et Paris où il a fait une grande partie de sa carrière, où il a fondé cette école de musique religieuse. Il a aussi écrit des opéras. Et ce qu'on peut en déduire de cette confrontation, c'est que les œuvres de Niedermeyer étaient connues de son temps.
Oui.
Et entre autres de Rossini, qui en avait connaissance, puisqu'il a pu plagier, peut-être un mot qui est un peu anachronique, parce qu'à l'époque, le droit d'auteur fonctionnait pas comme maintenant.
Tout à fait.
Et probablement, tout le monde savait que c'était un hommage, une imitation, une reprise.
Mais là, pour la datation, on sait que l'œuvre de Louis Niedermeyer, elle précède celle de Rossini.
Oui, absolument.
Parce qu'entre maître et élève, on sait pas qui copie qui.
Non, bien sûr, parfois c'est un peu compliqué à le déterminer, mais là, semble-t-il, en tous les cas, la première de la messe solennelle de Niedermeyer date d'avant la petite messe solennelle de Rossini.
Ok, donc on en déduit que Rossini, en fait, s'est laissé perméabiliser ou s'est laissé influencer par Niedermeyer et qu'il a bâti son Christé à partir du morceau de Niedermeyer, de son Et incarnatus est.
Bien sûr.
D'accord.
Ce n'est qu'une hypothèse qui me traverse l'esprit maintenant, mais Niedermeyer a vraiment passé une grande partie de sa vie à étudier Palestrina.
Oui.
Je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait édité beaucoup de ses partitions dans cette revue La Maîtrise qu'il a fondée.
Donc c'était une autorité sur la musique de Palestrina.
Donc on peut penser justement qu'il avait écrit dans l'écriture à la Palestrina une maîtrise que probablement Rossini admirait, ce qui pourrait expliquer le fait qu'il se soit resservi de cette musique à ses propres fins.
Alors, vous avez parlé du parcours de Louis Niedermayer et l'un des jalons, en tout cas, dans ce parcours, c'est que, à Paris, il va faire une partie de sa carrière. Alors, je crois qu'il fait des va-et-vient entre Paris et Nyon, à l'époque, déjà. Il n'est pas complètement établi à Paris. Mais, dans les années 1850, c'est là qu'il se met à ouvrir, ou je sais pas s'il a fondé lui-même, une école de musique religieuse et classique, à Paris. Et d'après ce que j'ai pu lire, sur le site de la Fondation, c'est une école qui se trouvait à Issy-les-Moulineaux. Et je crois que l'édifice existe encore aujourd'hui, ça je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est un jalon dans sa carrière.
Qui était très important, oui. Il a vraiment fondé... Il existait déjà une école, ou peut-être même plusieurs écoles de musique religieuse, mais lui en a vraiment repris à la base et a créé cette école de musique classique et religieuse, qui a ensuite été connue sous son nom, comme École Niedermayer.
Oui.
Et il a vraiment fondé son enseignement sur les œuvres anciennes, sur Bach aussi, parce que l'orgue était très important pour la musique religieuse.
Et lui-même était organiste. Bien sûr.
Et ce qui est assez curieux pour nous, c'est que ce compositeur qui nous semble un peu loin de nous, en réalité, il était connu et il a employé, par exemple, Saint-Saëns dans son école, qui a été enseignant. Et un compositeur comme Gabriel Fauré a fait, en réalité, tout son enseignement, tout son parcours musical au sein de cette école.
D'accord.
Donc, il faisait figure d'autorité de son temps, ce Niedermayer.
Oui, c'est étonnant, ça. Et alors, est-ce qu'il a été reconnu en époque? Est-ce qu'on a des traces, peut-être, de comptes rendus, de concerts, d'œuvres avec Louis Niedermayer? Enfin, je ne sais pas si vous avez été regardé de ce côté-là. Marie-Claire.
Alors, on trouve des mentions, justement, de compositeurs ou de contemporains qui sont allés à des concerts et qui parlent de cette musique.
Oui.
Et j'ai d'ailleurs posé la question à Aurore Calafontana, la musicologue de la Fondation Niedermayer, qui nous parlait un tout petit peu de cette reconnaissance de Niedermayer par ses pairs de son temps.
Oui, on trouve notamment un témoignage de Camille Saint-Saëns qui écrivait en 1893 au sujet des mélodies de Niedermayer, justement, que celui-ci a surtout été un précurseur. Donc il disait exactement « Le premier, il a brisé le moule de l'antique et fade romance française et, s'inspirant des beaux poèmes de Lamartine et de Victor Hugo, a créé un genre nouveau, d'un art supérieur, analogue au lied allemand. Le succès retentissant du lac a frayé le chemin à Monsieur Gounod et à tous ceux qui l'ont suivi depuis dans cette voie.
Ouais, » Donc là, on voit que c'est quand même Saint-Saëns qui n'est pas n'importe qui reconnaît les mérites de Niedermayer.
Oui, effectivement. Saint-Saëns connaissait d'ailleurs très bien Niedermayer pour avoir enseigné à l'école de musique religieuse. Et ce texte est en fait tiré d'une préface d'un livre qui avait été écrit par le fils de Niedermayer. En fait, le fils a consacré une biographie à son père et puis il a demandé à Saint-Saëns de rédiger une préface. Et ce texte vient de cette préface, justement.
Oui, c'est assez impressionnant de voir cette école. Donc là, vous venez de dire que Saint-Saëns y avait enseigné, mais il y a des grands noms de la musique française qui y ont étudié.
Oui, le plus connu est bien sûr Gabriel Fauré, qui a fait vraiment toute sa formation musicale là-bas depuis qu'il était enfant, et à l'époque justement où Niedermayer enseignait là-bas. Donc il y a vraiment un lien entre les œuvres de Niedermayer et de Fauré. On le voit notamment dans les mélodies, si on compare un peu les deux répertoires. Oui.
Mon bien-aimé, dans mes douleurs, je viens de la cité des prières.
La voix de Clémence Tilquin avec Xavier Damy au piano, Xavier Damy qui est pianiste au Grand Théâtre de Genève. C'était dans cette mélodie intitulée « L'âme du purgatoire » du compositeur Louis Niedermeyer, ce compositeur né à Nyon en 1802. Et c'était lors d'un concert qui était donné dans l'émission Magma en 2014 pour Espace 2. Alors, ces partitions, ben voilà un exemple hein, de la musique de Louis Niedermeyer. D'ailleurs, je me disais que ce serait pas mal de pouvoir entendre toute sa grande messe solennelle. Mais enfin, bref. Voilà.
C'est un souhait qui est partagé par les gens qui travaillent à la Fondation Niedermeyer.
Oui.
C'est une messe pour grand orchestre. C'est vraiment une messe qui est très 19e. On parlait avant de l'influence de la musique ancienne, mais c'est mêlé à quelque chose de très 19e. Il y a grand orchestre, grand chœur. C'est un très, très grand effectif.
Donc il faudrait pouvoir la reconstituer pour se faire une idée un peu du souffle de cette œuvre. Mais alors, qu'en est-il de ces partitions de Louis Niedermeyer? J'imagine qu'à la Fondation, voilà, on essaye de réunir ces partitions, mais est-ce qu'elles ont été disséminées? Est-ce qu'il y en a quelques-unes qui étaient à Paris? Est-ce que vous savez un peu, Marie Favre?
Alors, un peu, c'est le bon mot.
D'accord.
C'est vrai que là, on a retracé un peu le parcours de ce monsieur qui a eu un grand retentissement de son vivant, et puis qui ensuite, c'est les aléas de la vie, qui est-ce qui reste, qui est-ce qui disparaît, s'est un petit peu éclipsé de la conscience collective.
Oui.
Et puis là, cette fondation, depuis 10 ans, cherche à revaloriser ce patrimoine, puisque c'est vrai que c'est un des rares compositeurs suisses de l'époque qui a eu une si belle aura.
Oui.
Et les partitions, étant donné que Niedermeyer lui-même a pas mal voyagé, sont relativement dispersées.
Oui.
Et une des tâches de la fondation, c'est d'aller les rechercher et de les rassembler dans son centre de documentation pour ensuite pouvoir faire un travail éditorial et de valorisation du patrimoine. Certaines sont à Paris, par exemple. Certaines, je crois savoir, si je me souviens bien de ce que Aurore Calafontana, qui travaille là, m'a dit, c'est que les parties d'orchestre, par exemple, des heures orchestrales sont dispersées dans différents lieux, donc il faut chercher les différents morceaux un peu partout pour reconstituer ensuite l'œuvre, ce qui est un travail de longue haleine, mais assez passionnant.
Oui. Et alors, vous avez rencontré, vous, le président de la Fondation Niedermeyer à Nyon?
Oui, exactement, parce que c'est vrai que je me suis posé la question, comment est-ce qu'on en vient tout d'un coup à s'intéresser à ce compositeur et à vouloir revaloriser ce patrimoine? Et c'est ça qui m'expliquait quand je l'ai rencontré il y a quelques jours.
Édouard Garot.
Il faut bien dire que je suis né à Nyon, comme Niedermeyer, il y a 2 siècles. Et il existait un buste qui se trouvait au bord du lac, au-delà du débarcadère. Et comme musicien et comme prof de musique, ça me disait rien, j'avais assez à faire à d'autres domaines. Jusqu'au moment où il fallait laisser la place où il se trouvait, et donc déménager ce buste aux abords de cette villa Niedermeyer. Il faut bien dire en parenthèse, c'est pas là qu'il était né. Alors justement, en tant que musicien, je me suis dit, est-ce que ça vaut la peine de réhabiliter son œuvre? Alors je suis allé à Paris, à la Bibliothèque Nationale, j'ai découvert quelques manuscrits, et puis, de fil en aiguille, j'ai été persuadé de la valeur de son œuvre. Ici, en Suisse romande, il y a peu de choses de lui. La bibliothèque cantonale possède 1 ou 2 imprimés d'origine, dont Le Lac, qui a fait la célébrité de Niedermeyer. Mais il fallait partir, pour ainsi dire, de zéro ici dans la région, et du moment que plus personne s'intéressait à ce compositeur dont il restait cette effigie au bord du lac. Donc c'est justement ma formation qui m'a permis d'évaluer la situation, c'est-à-dire de me rendre compte que ces œuvres valaient la peine d'être soumises au public et produites dans des concerts.
Ça gratouille, mais enfin voilà, c'est un document historique, un enregistrement du lac, une mélodie de Louis Niedermeyer qui remonte à 1904, Marie-Favre. C'est quand même incroyable ça.
Cet enregistrement 1904.
Moi, ça veut dire qu'à l'époque, on chantait du Louis Niedermeyer.
Absolument, et même on l'enregistrait.
Oui.
Alors qu'à l'époque, on n'enregistrait pas forcément tout.
Oui.
C'est très intéressant et ça montre aussi que jusqu'à cette année-là, il a été joué, enregistré. Puis ensuite, il y a eu une espèce de trou quand même. Parce que c'est la chose qui a été la plus difficile de préparer cette émission, c'est à trouver des enregistrements.
Oui.
Parce que justement, comme son œuvre est en voie de réhabilitation, elle est très peu enregistrée. Et ce document de 1904, c'est la seule version enregistrée que j'ai trouvée du lac.
Oui.
Qui a été son tube à l'époque et qui l'a rendu très célèbre. Cette mélodie sur un poème de Lamartine qui a eu un grand retentissement. Et j'ai trouvé assez touchant finalement de réentendre cet enregistrement très daté à nos oreilles, mais qui témoigne de la prégnance de Niedermeyer encore au début du siècle.
Et qui témoigne aussi peut-être du fait qu'il a côtoyé certains poètes, enfin je ne sais pas s'il les a côtoyés, mais il les connaissait, Victor Hugo, Lamartine, voilà, il était dans un milieu comme ça, des cercles littéraires, artistiques à Paris. Donc peut-être qu'on va, d'ici quelques, je ne sais pas moi, peut-être d'ici un ou deux ans, on pourrait refaire une émission en espérant que sa musique va être enregistrée. Je rappelle simplement qu'auparavant, nous écoutions Édouard Garot, qui est le fondateur et président de la fondation Niedermeyer, une fondation qui se trouve à Nyon, juste au bord du lac, dans le bâtiment du conservatoire, je crois, de l'Ouest Vaudois, n'est-ce pas, Marie Favre?
Oui, c'est un lieu absolument charmant.
C'est superbe.
C'est superbe au bord du lac. Et c'est assez émouvant aussi de voir, il y a un buste dont parlait d'ailleurs Monsieur Garot, un buste de Niedermeyer dans le parc, très beau au bord du lac, qui regarde très mélancoliquement le lac. Et quand on sait que ça a été sa mélodie la plus connue, je trouve ça assez touchant de voir ce buste qui contemple.
Merci beaucoup Marie Favre d'être venue aujourd'hui dans nos studios pour évoquer cette figure oubliée qu'on va redécouvrir. Et je vous souhaite de passer une excellente journée.
À vous aussi, merci beaucoup.
À bientôt dans Versus Écouter. On va poursuivre avec un hommage, puisqu'on l'a appris tard hier soir, la diva de l'accordéon Yvette Horner est décédée. Bon, à un âge tout à fait vénérable, hein, elle avait 95 ans. Elle est simplement morte d'une belle vie bien remplie. Et du coup, on va lui rendre hommage aujourd'hui avec quelques extraits, quelques morceaux comme ça. Et vous savez qu'elle avait signé un disque dans les années 80 qui s'appelle « Le jardin secret d'Yvette Horner » pour Erato, avec des morceaux de musique classique qui avaient été transcrits pour son instrument, le piano à bretelles, ou autrement dit l'accordéon. Et on commence tout de suite avec le coucou de Claude Dacquin.